RFI, grand reportage.
Pascaline Minet.
Elle ne se rend pas compte du temps. Elle est assise sur le canapé, là, bon, elle est très calme, je vous dis, donc je lui laisse la télévision. Elle ne sait même pas ce qu'elle voit. Elle voit une personne qui parle. Ce qu'elle dit, ça ne l'intéresse plus. Avant, elle s'intéressait beaucoup. Disons que c'était une femme très syndicaliste, politique, militante et tout. Mais maintenant, elle ne s'intéresse plus à rien du tout. Vous diriez le président de la République, elle ne sait même pas qu'on a un président de la République, d'ailleurs, de toute façon. Non, tout disparaît. C'est ça le plus dur, quoi. C'est de voir une personne qu'on a connue très active, très, et puis maintenant qui est devenue quoi, plus rien.
Assis dans son appartement situé au cœur de Paris, Bernard, 82 ans, ne peut que constater la dégradation de l'état de son épouse. Denise souffre de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui se révèle en général entre 70 et 85 ans sous forme de troubles de la mémoire, comme ce fut le cas pour Denise.
J'ai senti les premiers symptômes, il y a une dizaine d'années, par la mémoire. On parle des pertes de mémoire importantes, voyez, ce sont des choses importantes. Parce qu'il y a des gens parfois qui s'inquiètent, oh je perds la mémoire, je vais avoir Alzheimer. Je lui dis, ne vous cassez pas la tête, ça n'a rien à voir avec Alzheimer. Si vous ne savez plus, vous avez vos clés, le matin, le soir. Bon. Non mais par contre, si vous avez vu un de vos enfants le matin et que le soir vous vous en rappelez plus, là vous pouvez commencer à vous interroger. Et il faut quand même nuancer. Hein. Donc c'est ce genre de perte de mémoire qui m'a attiré mon attention en décembre, ça fait juste 10 ans, décembre 97. Comme ça persistait, je suis allé à l'hôpital Broca, qui a immédiatement diagnostiqué par les tests. Ils lui ont fait passer des tests et tout de suite ils ont dit ça c'est la maladie d'Alzheimer.
On estime aujourd'hui à plus de 850 000 le nombre de personnes atteintes par cette maladie en France. Les cas d'Alzheimer devraient se multiplier encore dans les années à venir avec le vieillissement de la population. Le professeur Jacques Hugon, chef de service au laboratoire de biologie du vieillissement à l'hôpital Lariboisière à Paris, nous en détaille les symptômes.
La maladie d'Alzheimer est une maladie qui se caractérise par des troubles de la mémoire au départ, en général, bien que de temps à autre il puisse y avoir des troubles de l'orientation spatiale et qui progressivement évolue à la fois vers des troubles du langage, vers des troubles de la compréhension, vers des troubles de l'orientation, puis vers des troubles de la reconnaissance des choses, puis de la fonction, ce qu'on appelle la praxie et l'agnosie. Les gens ne savent plus faire des choses qu'ils savent faire depuis très longtemps. Et progressivement, il existe aussi des troubles du comportement à type d'agitation ou à type d'apathie. Les gens se replient un peu sur eux-mêmes.
Cette dégradation mène peu à peu à une perte totale d'autonomie du patient. L'Alzheimer est la première cause de dépendance des personnes âgées en France. La maladie, grande cause nationale 2007, fait l'objet d'un nouveau plan destiné à venir en aide aux malades et aux personnes qui les entourent, comme Bernard, inquiet pour sa femme dont l'état nécessite une attention de chaque instant.
Je viens de remplir justement un dossier, tiens, pour la faire entrer dans une maison de retraite. Et alors justement, là, j'ai tous les papiers que j'ai remplis. Ça peut vous donner une idée sur ma femme, sur son comportement. Voilà. Alors les médicaments, c'est les trucs classiques, la Ricept, des Bixa et des Roxap. Si vous voyez le bilan, par exemple, orientation dans le temps et dans l'espace, non. Mémoire des faits récents, nul. Enfin, mémoire des faits anciens, nul. Elle ne se souvient plus de rien. Elle ne reconnaît plus ses enfants. Il n'y a que moi qu'elle reconnaît. Il n'y a que moi qu'elle reconnaît, oui. Et encore, et pendant un temps, quand j'allais la chercher à l'accueil de jour, elle s'est penchée vers les autres. Et puis elle leur disait, c'est mon mari, elle disait, elle était toute fière. Mais maintenant, elle me dit à peine, elle me dit même pas bonjour quand je vais la revoir le soir. Elle manifeste plus grand-chose, quoi, un petit sourire parfois. Mais encore, il faut que j'insiste. Non, ça se dégrade beaucoup. C'est ça qui est un peu très pénible aussi. C'est de voir la dégradation. Oui. Délire, non. Elle ne délire pas. Agressivité, non. Vous voyez. Agitation, non. Fugue, non. Les cris, non. Les troubles du langage, oui. Elle ne parle plus, disons. Signe de dépression, non. Il a mis C'est le docteur qui a rempli ça. Handicap sensoriel, surdité, non. Cécité, non. Elle se porte bien, comme on dit. Sauf qu'elle a la maladie d'Alzheimer.
Car l'Alzheimer n'implique pas directement d'affection physique. La maladie, décrite pour la première fois en 1906 par le médecin allemand Alois Alzheimer, touche le cerveau. C'est ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative. Les explications du docteur Marie Sarrazin, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Alors neurodégénératif, c'est un mot un peu compliqué, en fait ça veut dire neurologique, hein, du cerveau, et dégénératif parce qu'il y a un mécanisme qui s'enclenche dans des régions particulières du cerveau et qui vont entraîner la mort des neurones, c'est-à-dire la mort des cellules cérébrales. La cause qui va déclencher la maladie n'est pas connue. Par contre, on connaît le mécanisme une fois qu'il est enclenché. Principalement, il y a deux protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer, la protéine amyloïde, qui est une protéine normale du cerveau, mais qui là va s'accumuler de manière anormale, donc on va en trouver en trop grande quantité, va s'agréger, va former des dépôts à l'extérieur du neurone qu'on appelle les dépôts amyloïdes. Et puis il y a une autre protéine qu'on appelle la protéine Tau, qui est également une protéine normale du cerveau, mais qui là va avoir une conformation anormale liée à la maladie. Et là aussi, de fait de cette conformation anormale, cette protéine Tau va s'agréger à l'intérieur de la cellule nerveuse, à l'intérieur du neurone, et va donner des filaments. Et c'est la conjonction de ce dépôt amyloïde excessif et de ce dépôt anormal de la protéine Tau qui va entraîner un dysfonctionnement du neurone, de la cellule donc du cerveau, et sa mort.
Ce phénomène est aujourd'hui encore irréversible. La maladie d'Alzheimer ne peut donc pas être guérie. Pour autant, la médecine n'est pas impuissante face à la maladie. Il existe une prise en charge thérapeutique dont le principe nous est donné par le docteur Sarrazin.
Dans la maladie d'Alzheimer, les neurones qui sont malades, ce sont les neurones cholinergiques. Les neurones cholinergiques sont les neurones qui communiquent entre eux par une molécule qu'on appelle l'acétylcholine. Et ces neurones étant déficitaires, étant perturbés par la maladie, l'acétylcholine va donc être moins importante. Et les principes des médicaments, c'est de renforcer cette activité de l'acétylcholine pour suppléer le déficit neuronal induit par la maladie. Il y a donc deux classes actuellement pharmacologiques qui permettent d'améliorer les symptômes de la maladie, autant la cognition que les manifestations comportementales qui peuvent être associées à la maladie. Ça joue sur les symptômes et d'autre part, ça ralentit l'évolution de la maladie. Alors ce sont des traitements qui ne guérissent pas, ce ne sont pas des antibiotiques, on va dire, mais ce sont des médicaments authentiques, véritables, qui ont fait preuve d'efficacité et que l'on propose à tous les patients.
Au-delà du traitement médicamenteux, les spécialistes insistent sur la nécessité d'une prise en charge psychologique et sociale qui permettra de stimuler le patient. Pouvoir se faire aider, c'est aussi important pour la famille, d'autant que 75% des malades d'Alzheimer vivent à domicile. Guy Le Rocher, le vice-président de l'association France Alzheimer, a accompagné pendant 14 ans sa belle-mère atteinte par la maladie.
Le désir de toutes les familles, donc je rappelle 75% de malades à domicile, c'est d'aider le malade, de l'accompagner, de le faire vivre dans son milieu naturel, qui est le domicile. Mais au-delà de ce vœu, il y a la réalité du quotidien qui vous rattrape. Et si on fait ça tout seul, très vite, on explose en vol. Parce que la journée, c'est pas 8 heures, c'est 24 heures. Parce qu'on travaille, parce qu'il y a des gens de plus en plus jeunes sur lesquels on porte le diagnostic. Et donc la vie de tous les jours, le quotidien, il va être rythmé par cette maladie, affectivement, humainement, financièrement. Et donc, il faut trouver des solutions dites de répit, c'est-à-dire, il va rester à domicile, et puis la maladie avançant, je vais me faire aider par d'autres. Alors soit me faire aider au domicile, il y a un auxiliaire de vie qui peut venir, il y a l'infirmière qui peut venir faire la toilette quand on sera à un stade plus avancé. Mais il y a aussi sortir le malade du domicile et, par exemple, aller en accueil thérapeutique de jour, c'est-à-dire une structure autonome qui a vocation à recevoir le malade du matin au soir pour le resociabiliser, c'est-à-dire qu'il va rencontrer d'autres personnes. Et il y aura toutes sortes d'ateliers qui ont toutes une finalité thérapeutique, c'est-à-dire qu'un malade, il a besoin de deux choses, du médicament, mais c'est également la thérapie non médicamenteuse, c'est-à-dire toute la stimulation que la famille, que les établissements, genre accueil thérapeutique de jour autonome, vont faire pour stimuler le malade. Et c'est l'un plus l'autre qui vont aider, autant que faire se peut, le malade à combattre la maladie et surtout à essayer de vivre avec dans les meilleures conditions possibles.
Mais apporter un traitement et un accompagnement adapté au malade, tout cela a un coût. D'après un rapport parlementaire de 2005, ce sont 10 milliards d'euros qui sont consacrés chaque année à la maladie. Pour Guy Le Rocher, cet investissement reste trop souvent à la charge des familles.
On dit toujours que les gens sont aidés et que c'est remboursé à 100%. Alors là aussi, il y a des contre-vérités. Ce qui est remboursé à 100%, c'est tous les aspects médicaux. Dès lors que vous êtes malade d'Alzheimer, cette maladie a été reconnue affection de longue durée, donc vous avez droit à un remboursement sur la partie médicale à 100%. Mais ces 100%, si on prend le chiffre global de la maladie d'Alzheimer en France, l'estimation, c'est un coût de 10 milliards d'euros en 2005. Or, sur ces 10 milliards d'euros, il y avait 1 milliard pour les aspects médicaux et 9 milliards pour les aspects non médicaux, c'est-à-dire médico-sociaux ou psychosociaux. 9 milliards, dont la moitié, 4 milliards et demi, à la charge des familles. Vous voyez le déséquilibre entre le médical et le non médical. Bien évidemment, plus la science va avancer, plus la recherche amènera des solutions, et plus ce pourcentage va s'inverser. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et donc, par exemple, une famille qui veut se faire aider pendant la journée, ça peut lui coûter 60, 70, 100 euros par jour. C'est-à-dire, si vous prenez le chiffre de 61 euros par jour, et ça dépend des départements en plus, eh bien, par mois, ça va faire plus de 1500 euros. Donc, qui peut s'offrir ça aujourd'hui ?
De plus, l'offre en institution d'accueil, qu'elle soit temporaire ou permanente, est insuffisante, même si la situation a progressé depuis les deux premiers plans Alzheimer de 2001 et 2004. Les centres d'accueil de jour, par exemple, se sont multipliés, mais avec un peu plus de 5000 places disponibles en France, l'offre reste largement inférieure aux besoins. Petit détour par un de ces accueils, le centre Mémoire Plus, situé dans le 15e arrondissement de Paris.
Bonjour Monsieur Deveau.
Oui, bonjour madame.
Comment allez-vous?
Toujours bien.
Toujours bien. En forme?
Oui, oui, bonjour.
Bienvenue à l'accueil de jour.
Oui.
Pour une journée passée ensemble.
Oui.
Vous savez le programme aujourd'hui?
Non, je ne sais pas.
On va faire de la gymnastique douce.
Ah bon?
Un cours de tai chi.
Un cours de
tai chi chuan. Le tai chi, vous savez, c'est de la gymnastique chinoise. Vous allez voir, on a un professeur exprès pour nous qui vient.
C'est chinois ?
Non, pas du tout. Voilà, c'est de la gymnastique en fait basée sur la concentration, sur le souffle.
Sur le souffle.
Sur le souffle, les énergies positives.
Marie-Laure Martin est directrice du centre Mémoire Plus. Elle accueille les malades quelques jours par semaine pour différentes activités de stimulation et de socialisation.
Quatre grands types d'activités sont proposés. Des activités de stimulation cognitive, donc ce sont des ateliers mémoire, des ateliers réminiscence, des ateliers de stimulation motrice, type gymnastique douce. Et le troisième type d'activité, ce sont des activités autour de tout ce qui est l'autonomie. On a des personnes qui vivent seules, donc il est important de pouvoir surveiller si les personnes peuvent continuer à se préparer seules un café ou faire bouillir de l'eau. Et puis enfin, des ateliers qui permettent de favoriser la convivialité, le partage, la discussion. Je crois qu'en proposant ces activités une fois, deux fois ou trois fois par semaine de façon régulière, nous apportons en fait aux personnes à la fois un repère dans la semaine, nous leur permettons de sortir de leur isolement et de leur solitude, nous favorisons également, si vous voulez, la stimulation des capacités restantes. Notre objectif n'est pas que les personnes retrouvent ces capacités qui sont malheureusement perdues avec l'évolution de la maladie. Notre objectif est d'évaluer les capacités résiduelles des personnes et de stimuler ces capacités pour que les personnes puissent les faire le plus longtemps possible.
Il est donc possible, grâce aux médicaments et à une prise en charge psychosociale, de ralentir la progression de la maladie. D'où l'intérêt de la diagnostiquer précocement, avant que les lésions cérébrales n'entament trop les capacités du malade. Aujourd'hui, l'Alzheimer est encore mal détecté, d'après le docteur Marie Sarrazin.
Le grand investissement des équipes médicales, c'est déjà essayant de diagnostiquer les patients. Pourquoi ? Parce que les malades ne sont pas diagnostiqués. Vous savez que c'est une maladie très fréquente, hein, ça touche, on pense qu'il y a plus de 800 000 patients en France. Il y en a moins de 50% qui sont diagnostiqués, il y en a moins de 30% qui sont traités. Il n'y a pas un test blanc ou noir pour la maladie. C'est donc un faisceau d'arguments. La première chose, c'est un bilan d'exploration de la mémoire. On a la possibilité, par des tests d'évaluation de la mémoire qui sont faits par des neuropsychologues, de caractériser les difficultés de mémoire et donc de distinguer justement les problèmes de concentration, d'attention que l'on a tous, d'une atteinte authentique mnésique de la mémoire liée aux lésions cérébrales. Ensuite, le médecin prescrira une imagerie cérébrale qui peut être un scanner ou une IRM cérébrale. Et puis, dans les avancées plus récentes encore, il y a maintenant la possibilité de doser dans le liquide céphalorachidien, c'est-à-dire par une ponction lombaire, ces protéines dont j'ai parlé tout à l'heure, tau et amyloïde, et d'avoir des arguments également complémentaires en faveur ou en défaveur du diagnostic.
Les études sur les outils diagnostiques se multiplient dans l'objectif de diagnostiquer la maladie avant l'apparition des symptômes. L'enjeu est de pouvoir traiter l'Alzheimer au plus tôt, d'autant plus que de nouvelles molécules devraient arriver prochainement sur le marché. Leur fonctionnement nous est décrit par Marie Sarrazin.
Le mécanisme de ces nouvelles molécules qui sont actuellement en recherche, ça serait justement d'agir sur la protéine tau et sur la protéine amyloïde pour essayer d'enrayer l'évolution de la maladie. Les essais sont en association avec les traitements actuels qui permettraient d'agir en empêchant la protéine tau d'avoir son action toxique et en évitant l'accumulation de la protéine amyloïde.
Autre piste très prometteuse, celle d'un vaccin thérapeutique dont le principe est de stimuler le système immunitaire pour qu'il s'attaque aux fameuses protéines amyloïdes. Sa mise au point plus lente que prévue devrait aboutir prochainement, comme l'explique le docteur Hugon.
Le vaccin a été instauré déjà il y a 2-3 ans et puis malheureusement des complications neurologiques ont fait qu'il a fallu arrêter les essais thérapeutiques. C'est un vaccin qui est fait contre cette protéine bêta-amyloïde, mais comme c'est aussi un composant un peu naturel du cerveau, il y a eu des réactions avec des réactions de méningo-encéphalite et donc il a fallu arrêter. Donc d'autres types de vaccins sont testés à l'heure actuelle et probablement, si ces tests marchent dans des études cliniques, eh bien on aura à notre disposition, je vous dis, dans quelques mois, quelques années, de nouveaux types de vaccins qui pourraient freiner l'évolution de la maladie.
D'autres équipes de chercheurs tentent de stimuler la repousse des cellules nerveuses, mais il s'agit d'un projet à plus long terme pour le docteur Marie Sarrazin.
Il y a effectivement quelques équipes qui ont travaillé là-dessus et qui ont injecté ce qu'on appelle des facteurs de croissance et qui montrent effectivement qu'on pourrait peut-être observer des bénéfices cliniques, en tous les cas indirects, sur les malades. Ça a été fait chez des tout petits groupes de patients. C'est des études très lourdes qu'il faut injecter, il faut faire de la chirurgie. Donc ça ne me paraît pas tout à fait la piste la plus développée. Les pistes dont on attend le plus sont des pistes plus médicamenteuses classiques.
La recherche sur la maladie d'Alzheimer prend de plus en plus d'ampleur. Pour Jacques Hugon, c'est un investissement indispensable face à un véritable enjeu de société.
Il existe énormément de recherches dans le monde entier, car c'est véritablement un problème de santé publique, avec les centaines de milliers de patients en France, les millions de patients dans le monde, et probablement il va falloir affronter tous ces malades dans les années à venir, qui vont être de plus en plus nombreux, et c'est pour ça que la recherche thérapeutique se développe énormément.
Stimuler la recherche sur le diagnostic et les traitements de la maladie doit être l'un des objectifs du nouveau plan Alzheimer, avec celui d'améliorer la prise en charge des malades. La commission, présidée par l'ancien directeur général de la santé, Joël Ménard, doit rendre ses propositions avant le 1er novembre 2007, afin que le plan puisse être mis en œuvre dès l'année prochaine. Grand reportage, Pascaline Minet, à la réalisation Marc Minatel et à la technique Cyril Etienne.